Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien Julia, on va commencer comme tous les jours par poser là une petite question, une question de notre vie quotidienne. La voici, peut-on vraiment aller mieux grâce à nos animaux? Vous savez, on dit souvent que le chien par exemple est le meilleur ami de l'homme, mais cela a-t-il des bases scientifiques? On parlera aussi des bienfaits des chats et d'autres animaux. Aujourd'hui, la zoothérapie apporte beaucoup aux enfants souffrant d'autisme, par exemple, mais ça ne s'arrête pas là. On vous détaillera cela avec Laurence Paoli. Elle est spécialiste des relations entre les hommes et les animaux, ancienne collaboratrice du Muséum d'Histoire Naturelle. Et elle vient de publier ce livre, Quand les animaux nous font du bien, aux éditions Buchet-Chastel.
Qu'on embrasse. Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour consacré à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive.
Wow, bravo.
Oui, un nom un peu barbare, il faut le dire, pour qualifier une maladie causée principalement par le tabagisme. Alors savez-vous quels sont les symptômes? Comment se fait le diagnostic? Et comment ça se traite? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons le professeur Bruno Housset, il est pneumologue et président de la Fondation du Souffle.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, on mettra tout d'abord un fruit à l'honneur, la banane. Jusque-là, rien de très original. Mais vous verrez, avec Marion Sauveur, on va la twister, la banane, lui faire révéler tout son potentiel gustatif dans notre assiette cet hiver. Et puis, dans notre bande de chroniqueurs, il y aura aussi ce midi Elsa Lévy. Aujourd'hui, elle nous propose de découvrir ce qu'est l'écosexualité. Ce n'est pas faire l'amour dans la nature, mais faire l'amour à la nature, nous a-t-elle dit. Elle nous expliquera l'intérêt et peut-être les bienfaits de cette nouvelle pratique.
Et enfin, nous allons terminer ce tour de table avec la chronique de Séverine Pierron, celle qui décrypte pour nous les tendances des plus jeunes, des 15-20 ans, à dire. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer ce qu'est la tendance du shifting. Une expérience qui donne lieu à des tas de vidéos sur TikTok. Le shifting, c'est une sorte de rêve lucide dans lequel on se transporte par la force de la pensée dans une autre dimension.
Ouh, perché, perché.
Ouh là, où il y a un trip comme avec de la drogue, mais sans la drogue, évidemment, c'est promis.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Peut-on vraiment aller mieux grâce à nos animaux?
Bah oui, je vais peut-être découvrir qu'il faut que je craque pour mon bien, pour ce petit chaton trop mignon ou ce chien adorable que mon fils veut absolument adopter. On va détailler ensemble quels sont les réels bienfaits des animaux pour nous et pour notre santé. Il paraît que les propriétaires d'animaux, vous savez, sont souvent en meilleure santé que les autres. C'est fou ça. Eh bien, on va tenter de comprendre comment ça fonctionne dans quelques minutes avec notre invité. Mais pour amorcer ce sujet, on va en parler, sûrement avec un bras d'humour d'abord, avec Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, je vous confirme déjà cette information, puisque depuis que j'ai un chat, je suis en bien meilleure santé, puisque je cours après toute la journée.
Comment
il monte,
s'appelle
il descend.
Ce chat?
Il s'appelle Rivoli.
Oh, Rivoli. Comme la rue.
Voilà, comme la rue de Rivoli, exactement. Et effectivement, on voit déjà le bienfait, puisque quand j'ai donné le nom de mon chat, vous avez fait oh. Donc voilà, ça fait du bien. Quand on regarde des petites vidéos de chats sur internet, on fait oh. Donc
mignon.
Oui, ça fait du bien. On adore les animaux. On aimerait peut-être parfois être un animal. J'ai demandé aux enfants aujourd'hui si vous pouviez vous transformer là maintenant en animal, vous auriez choisi lequel?
Une tigresse, parce que j'aime bien, enfin pour courir partout, pour chasser des animaux.
Un lion, parce qu'il est frère.
Un loup, parce que la nuit ça aboie.
Un cheval, parce que j'en fais et puis parce que c'est j'aime bien.
Un cochon, parce que c'est rose et c'est ma couleur préférée. Et aussi parce que c'est rigolo et ça se roule dans la boue.
Un requin marteau, parce que c'est bizarre.
Bah, ça a une tête comme un marteau.
Oh, mais ils ont de l'imagination.
C'est trop mignon. Je crois que mon préféré, c'est
voulu...
le lion. C'est
bah,
le lion.
Oui, le lion qui fait...
Un petit lion qui fait.
Non, le lion parce qu'il aboie.
Parce qu'il aboie, évidemment, le lion. Donc, ça, c'était les animaux sauvages. Je leur ai dit, mais dans... et si on choisit chez les animaux domestiques, c'est qui le meilleur?
Lapin, parce que c'est mon animal préféré.
Un chat, parce que ça court vite. Parce que des fois, on fait des petites caresses. Ouais. Des fois, on joue avec un jouet pour chat.
C'est trop mignon, les chats arrivent ouais, numéro 1 du classement ouais. Apparemment, chez les enfants, c'est vraiment le préféré parce qu'il est tout doux, parce qu'il est sympa et apparemment il est même très très intelligent selon cette jeune fille.
Ouais, des fois mon chat il est intelligent, pas tout le temps.
Quand faut manger, ils sont très intelligents là.
Mon chat il est intelligent parce que vous allez me prendre pour une folle. Ah oh, bah c'est pas grave si vous me prenez pour une folle. Et bah genre, moi je crois que une fois, et bah, je crois que mon chat il a dit maman, il a dit maou maou.
Oui, alors non,
alors,
pas sûr, c'est pas le mot folle.
Non, non, mais je lui ai dit, mais c'est vrai que ce chat parle?
Je crois. Et parce qu'on a vu une vidéo où il y a un chat, il dit arrête parce qu'il y a sa maître, et bah il le lave.
Il l'a vu cette vidéo?
Ben non, c'est un chat.
Ah, d'accord, donc elle reprend un peu lucidité, mais je lui ai dit, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de le filmer, de le mettre sur Internet?
Ouais.
Et il fait des likes?
Ouais, ça va.
En environ combien?
34.
Oh, et quand tu fais moins que 34, tu sens qu'il est déçu, ton chat, ou pas?
Non, mais n'importe quoi, c'est un chat, il sait même pas ce que je fais. Il a peur quand je le filme.
Donc on a essayé de la prendre pour une imbécile, mais on lui fait pas.
Ah, hein, pas non, du tout. Non, c'est non, moi qui me suis fait avoir et j'ai terminé quand même avec cette question. J'ai demandé aux enfants si plus tard, à choisir, c'était mieux d'avoir des enfants ou d'avoir des animaux.
Un animal, parce que j'ai toujours aimé les animaux. Un enfant, bah, c'est trop d'argent, il faut acheter des couches, les blédinas, tout ça. Et un chien, il faut juste avoir un grand jardin, acheter des croquettes.
L'idéal, c'est que mon enfant mange des croquettes. Comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est de lui donner des croquettes.
Je préfère avoir un enfant parce que ça perd pas ses poils partout. Ça perd un peu ses ongles, mais avec un coup de balai...
Je préfère avoir un animal parce qu'on peut le tatouer et qu'un enfant ne peut pas le tatouer. Mon mari ne sera pas d'accord.
Oh, c'est un mignon. Tournage qui a été fait sans drogue, on est d'accord, ah, Clément.
Absolument, hein, pas juste d'accord. L'imagination et la créativité des enfants que je remercie d'ailleurs.
Bah, merci à vous, Clément Lanoux, pour cette immersion dans la vraie vie sur notre thème de ce matin à propos des animaux qui nous font tant de bien. Vous pouvez rester avec nous, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec notre invité. Bonjour Laurence Paoli.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations entre les hommes et les animaux, ancienne collaboratrice du Muséum d'Histoire Naturelle, et puis vous avez travaillé également dans de nombreux parcs zoologiques à travers le monde. Alors, si on vous reçoit ce matin, c'est pour parler de ce livre, Quand les animaux nous font du bien, aux éditions Buchet-Chastel. On connaît aujourd'hui la zoothérapie et l'utilité des animaux, comme les chiens guides, par exemple, pour les personnes qui souffrent de cécité. Mais les recherches scientifiques sur les bienfaits des animaux remontent à quand, en réalité ?
En fait, alors déjà, une toute petite nuance, on parle effectivement de zoothérapie, mais on parle de zoothérapie en général plutôt au Québec. En France, on a plutôt adopté le terme de médiation animale à partir de 2005, parce que les professionnels qui s'en chargeaient, enfin qui faisaient de la médiation animale, étaient gênés par le terme de thérapie, qui signifiait que c'était l'animal qui soignait, qui pouvait servir de médicament. Donc on est sur la médiation, l'animal est médiateur. Voilà, Québec, zoothérapie et pays anglo-saxon, pet thérapie.
D'accord.
Et pour revenir à votre question, en fait, les premières traces, on va dire, documentées de soins par le contact animalier, parce qu'on appelle ça comme ça à ce moment-là, c'est au XVIIIe siècle, avec un monsieur qui s'appelle William Tuck, et qui est un philanthrope qui, en Angleterre, était atterré par l'État des asiles psychiatriques et qui a décidé de monter une institution modèle autour de laquelle il avait mis une ferme et des animaux.
Génial.
Et il s'est rendu compte, en fait, que les patients qui pouvaient se livrer à des tâches simples et répétitives, comme aller nourrir les animaux, les caresser, leur parler, etc., allaient mieux, se sentaient mieux, et que c'était tout à fait bénéfique.
Clément ?
Et il y a un animal précis qui fait plus de bien, même dès la création, ou pas forcément ?
Non, alors moi je ne sais pas, mais je pense que c'est les animaux de ferme là, donc, c'est-à-dire qu'il devait y avoir vaches,
poules,
chèvres, etc., probablement des chiens, des chats aussi. On n'est pas documenté, enfin moi je ne suis pas documentée à ce point-là, mais je pense que c'était vraiment le contact avec l'animal de façon générique, en fait, et le fait de s'en occuper.
Alors on dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est l'animal que l'on a domestiqué en premier, c'est bien ça ?
C'est l'animal qu'on a domestiqué en premier, effectivement. On date sa domestication, on va dire, de moins 33 000 à moins 12 000.
Wow.
Parce que le chien, au départ, on le sait maintenant, était un loup gris. Leur génome est commun à 99,9%. Donc on imagine en fait que les loups, lorsqu'on était encore chasseurs-cueilleurs, les loups allaient aider les hommes à chasser. En fait, il y avait une sorte de mutualisation d'efforts pour rabattre les
grosses proies. Ils étaient moins sauvages qu'aujourd'hui, alors les loups, ils étaient
plus
sympas.
Ils n'étaient pas moins sauvages, mais ils étaient intelligents. Bah, ils avaient moins peur de l'homme, peut-être, et puis ils étaient plus nombreux. Enfin, je veux dire, on était sur une relation peut-être plus égale.
Ouais.
Et ils se sont servis les uns des autres. Et puis, petit à petit, il y a des loups qui se sont... familiarisé effectivement avec l'homme. L'homme peut-être a, ce sont des suppositions tout ça qu'on a faites, l'homme peut-être a appris des bébés loups qu'il a commencé à élever parce que c'était sympa d'avoir un loup, peut-être que ça éloignait d'autres prédateurs, que peut-être que déjà il y avait des relations affectives qui s'étaient créées. Et on part du postulat qu'à moins 12 000, le loup a progressivement basculé, c'est-à-dire qu'il est devenu notre chien. Ses oreilles se sont baissées, il s'est mis à aboyer plutôt que hurler, il s'est mis à remuer la queue, il s'est mis à être moins effrayant pour l'homme, en fait. Et il a pris des attitudes physiologiques, physiques et puis mentales, on va dire, plus sympas.
Ouais,
voilà. Donc ça c'est le loup, en fait. Et c'est à la révolution néolithique que toute la domestication a commencé. C'est qu'en fait, nous, de chasseurs-cueilleurs, on est devenus...
Vous hochez la tête, vous connaissez tout ça,
bah, j'ai suivi, oui, exactement.
Voilà.
Ça hyper intéressant.
On est devenu agriculteur, éleveur, et effectivement, on s'est sédentarisé. Et à ce moment-là, on a commencé à domestiquer les animaux. Et
le
voilà.
Chat, lui aussi, ça c'est dans cette période-là.
Le chat, oui, c'est au moment, alors beaucoup plus récent que le loup, au moment justement de la révolution néolithique, parce qu'on s'est mis à avoir des provisions, en fait, des provisions de grains, et les grains ont amené les souris.
Oui.
Les souris ont amené les chats. Les chats se sont installés spontanément pour manger ces souris qui étaient à demeure et en profusion. Puis ils sont rentrés petit à petit dans les maisons parce qu'ils mangeaient non seulement les souris, mais les serpents, les scorpions, les insectes. Donc on les a tolérés dans les maisons. Et les chats, petit à petit, on dit plus qu'on a apprivoisé le chien et que parce qu'en fait, on a fait une pression sélective sur le chien beaucoup plus vite parce qu'on lui a demandé de nous rendre des services. Le chat a rendu ce service spontanément. Donc le chat s'est apprivoisé tout seul et a pris sa place dans nos foyers.
Ouais. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être. Ici, on ne cherche qu'à rendre votre vie quotidienne plus agréable, plus simple, et ce, dans tous ses aspects. Et aujourd'hui, on l'adoucit, cette vie, grâce à l'aide des animaux, et pas que les chiens et les chats, vous l'entendrez. On décortique tout cela avec vous, Laurence Paoli. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations entre les hommes et les animaux, ancienne collaboratrice du Muséum d'Histoire Naturelle, et vous venez de sortir ce livre « Quand les animaux nous font du bien » aux éditions Buchet-Chastel. Alors justement, à quand remontent les premiers soins par contact animalier? Parce que vous parlez dans votre livre d'un psychiatre américain dans les années 60. Racontez-nous.
En fait, les premiers soins par le contact animalier, c'est un monsieur qui s'appelle Boris Levinson qui a fait une première publication. En fait, ce monsieur était un psychiatre et il a reçu dans les années 50 et quelques, 53 je crois, il a reçu un jeune garçon qui était très mutique, très renfermé, qui devait probablement souffrir de TSA. Et il se trouve il se trouve que son chien était dans son bureau ce jour-là. Et qu'à la grande surprise des parents du petit garçon et à la grande surprise du psychiatre, en fait, le chien qui s'appelait Jingles s'est mis à lécher le petit garçon qui s'est mis à le caresser et il s'est créé une connexion entre eux immédiatement. Bref, il a reçu ce petit garçon après à toutes les séances avec son chien et il s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Et grâce à la connexion qui s'est établissée entre l'enfant et le chien, il a pu, lui, établir un contact avec l'enfant.
L'enfant s'ouvrait en quelque sorte.
Exactement, hein, et pouvoir commencer à le soigner. Ça, c'est la première publication importante. La seconde publication arrive, elle, en 75, et c'est aussi un couple de psychiatres, les Corson, qui, eux, travaillent dans un hôpital psychiatrique et qui traitent plutôt des adolescents, des jeunes adultes. Et ils ont, parmi ces jeunes patients, certains qui ne répondent absolument pas au traitement des psychotropes, qui ne répondent absolument pas au traitement des électrochocs qu'on pratiquait beaucoup. Et il se trouve que dans cet hôpital, il y avait visiblement une section avec expérimentation sur chiens, en fait. Et ils ont remarqué que lorsque les chiens aboyaient ou lorsqu'ils faisaient du bruit, certains de leurs patients réagissaient de façon très positive. Bref, pour ces cas, ils ont testé ça sur une cinquantaine de cas. Pour ces 50 cas qui ne fonctionnaient pas avec leur traitement classique, ils se sont mis à les mettre en contact avec les animaux et à leur grande stupéfaction, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des résultats immédiats de contact, de prise en charge, de responsabilité. Et ensuite, vous avez une autre publication très importante aussi qui a fait date, parce qu'en fait, ce sont les publications en science, ce sont les publications qui marquent le tempo. C'est un monsieur qui s'appelle David Lee, qui lui était un travailleur social et lui travaillait dans un hôpital psychiatrique aussi, mais qui est un hôpital psychiatrique de prisonniers. Et en fait, les soignants se sont rendus compte qu'il y avait un oiseau blessé qui avait été récupéré par les prisonniers, qui l'ont gardé dans une cellule et qui se cachaient pour le soigner. Et cette découverte les a tellement stupéfaites parce qu'en fait, c'était des gens qui, a priori, étaient très abîmés mentalement, très abîmés moralement aussi, qui se sont dit que c'était attenté. Et donc, du coup, ils ont proposé à certains prisonniers, ceux qui le souhaitaient, de leur donner des petits animaux dont ils avaient la charge. 10 ans plus tard, cette publication arrive et dans laquelle on se rend compte, les résultats rapportés sont que très clairement, ils ont pu baisser certains traitements, qu'il y a moins d'accès de violence, que ça se passe mieux entre les détenus et les surveillants. Enfin bref, que ça n'est que positif.
Dans les bienfaits, il y a autre chose que vous évoquez dans votre livre, c'est que si on regarde en fait les dépenses de santé, vous avez remarqué que moins il y a d'animaux dans les foyers, plus les gens tombent malades, c'est ça ?
En fait, de façon assez basique, on va être c'est qu'en fait, le stress, on le sait tous, est quelque chose d'extrêmement mortifère. Le stress chronique, en tout cas, est quelque chose de vraiment mortifère pour nous. Ça crée des tas de problèmes de santé, ça fait baisser votre immunité naturelle, etc., etc. Or, la présence des animaux, clairement, a tendance à atténuer ce stress.
C'est fou.
Elle vous calme, elle vous apaise, etc. À partir du moment où vous êtes moins stressé, où vous êtes plus paisible, où vous pouvez vous régénérer en présence d'un animal, vous avez moins besoin, effectivement, aller consulter le médecin. Et il y a eu différentes études qui ont été faites là-dessus, enfin différents rapports qui ont été faits. Le plus récent date de 2016 et c'était en Grande-Bretagne. On s'est rendu compte que l'apport des animaux de compagnie faisait que les dépenses de santé avaient baissé de 10% en fait par an.
Mais c'est fou hein, quand même, hein. La capacité qu'ont les animaux de nous calmer d'ailleurs.
Vous allez regretter, je pense qu'à la fin de cette émission, vous allez changer d'avis et prendre un animal. Ouais,
c'est
peut-être.
Possible, mais c'est, à Paris, c'est pas évident. On va
à Paris, c'est pas évident. Ouais.
Mais on sait que les étudiants, par exemple, peuvent rapidement basculer dans une détresse psychique à cause de la pression, du stress, du fait d'être loin parfois du foyer familial. Évidemment, le Covid n'a rien arrangé. Et là encore, hein, pour le bien-être de ces jeunes, on peut retrouver dans certaines bibliothèques universitaires des chiens, des chats ou même des lapins. Non, mais c'est quoi à ce moment-là le but de cette présence animale?
En fait, la présence animale, toujours pareil, c'est de faire baisser le stress. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez ça qui... Enfin, ça existe dans les bibliothèques anglo-saxonnes depuis un bout de temps. Ça existe aussi au Canada, ils sont en avance là-dessus. Et même à Vancouver, vous avez carrément un programme qui s'appelle BARC, qui fait que deux jours par semaine, les étudiants qui veulent peuvent aller consulter des chiens, enfin des médiateurs qui travaillent avec des chiens et qui sont là à leur disposition s'ils sentent trop stressés, trop
mal. Pour les caresser,
mal,
on fait
seul.
De la caresse-thérapie.
Exactement.
Ouais.
C'est de la caresse-thérapie et il y a même une étude complémentaires qui montrent que ceux qui caressent les chiens, en fin de compte, ont un bénéfice supérieur à ceux qui se contentent d'être en leur compagnie.
Ah oui,
donc le contact physique vous apporte en quelque chose de supplémentaire parce qu'en fait, à notre époque, on est aussi carencé en contact physique et c'est vital. Mmh. Et pour revenir à votre question, cet essai a été fait en France en 2019 dans la bibliothèque universitaire d'Angers parce qu'ils se sont rendus compte qu'aux périodes de Noël, il y avait des crises d'angoisse énormes chez les étudiants, beaucoup d'étudiants seuls, d'étudiants étrangers qui ne repartaient pas dans leur famille. Et la directrice des bibliothèques a même ramassé une jeune fille en crise d'angoisse, de tétanie horrible dans les toilettes. Bref, elle s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Elle a contacté une jeune femme qui s'appelle Lucille Civelle, qui a monté un groupement de médiation animale dans la région d'Angers, qui s'appelle Des Museaux pour des mots. Et effectivement, Lucille et certaines de ses collègues sont venues avec des chiens, des chats. Et je crois qu'il y avait des cochons d'Inde au départ, mais qu'ils ont arrêté parce qu'il y avait trop d'étudiants et les cochons d'Inde étaient stressés. Bref, en résumé, ils ont mis les chiens et les chats dans des salles de repos et ils ont proposé aux étudiants de venir, c'était deux fois deux heures par semaine, les caresser s'ils avaient besoin. Ça a eu un tel succès qu'il a fallu mettre en place des inscriptions.
Oui.
Ça ne désemplissait pas, les étudiants faisaient la queue et ça a amené... Alors, non seulement les étudiants venaient, disaient « ça me rappelle mon chien, mon chat, il me manque, je suis loin de chez moi, ça me rappelle ma maison, ça me fait du bien, les ronronnements du chat, etc. » Ça, c'était le premier point. Le second, c'est ce qu'amènent aussi les animaux, c'est-à-dire que les étudiants parlaient entre eux, partageaient, c'est-à-dire que les animaux amènent aussi des connexions entre êtres humains sur des sujets faciles, sympathiques, qui vous renvoient à l'enfance, qui vous renvoient à l'émotionnel. Et donc, du coup, on n'est pas dans l'affrontement, on n'est pas dans l'angoisse des examens, on n'est pas dans des problèmes complexes. En fait, on est sur un partage émotionnel positif. Et ensuite, ça a permis de voir qu'il y avait des étudiants qui étaient en phase de dépression, puisqu'il y avait une infirmière qui assistait à ces séances. Et les médiatrices ont pu, quand elles repéraient ces étudiants-là, les orienter tout doucement vers l'infirmière qui a pu, elle, les prendre en charge pour les orienter vers un suivi psychologique. Pas de crise d'angoisse cette année-là.
Ah ouais,
aucune crise d'angoisse
fou,
cette année-là.
C'est incroyable.
Ça, c'est sur l'aspect, on va dire, psychique. Alors, au-delà du milieu médical, on assiste aussi à la présence d'animaux dans le milieu de la justice. Vous évoquez même les animaux d'assistance juridique. C'est quoi, ça? De quoi il s'agit?
Ça, c'est passionnant. Tout est passionnant, je trouve, mais c'est vraiment passionnant. En fait, ça, là aussi, c'est là que c'est marrant, la médiation animale. Ça sort vraiment d'histoires personnelles et ça vient du hasard au départ. C'est un procureur aux États-Unis qui s'appelait Hélène O'Neill Stephens, qui en 2004 essayait de faire témoigner deux jumelles de 7 ans qui avaient été abusées par leur père. Impossible, les gamines étaient complètement bloquées, ne voulaient pas parler. Il se trouve que cette procureure, son fils est handicapé physique et qu'il avait un chien qui l'accompagnait, un chien d'assistance. Elle a eu l'idée de prendre ce chien et de l'amener pour rassurer les petites qui effectivement se sont senties suffisamment rassurées pour pouvoir parler et témoigner. Bref, elle a utilisé le chien ponctuellement, puis elle s'est dit qu'elle allait éduquer des chiens. Elle a monté une société qu'elle a transformée en association qui s'appelle la Courthouse Dogs Foundation. Elle existe depuis, je crois, 2008 maintenant. Elle a formé 271 animaux qui sont dans les tribunaux de 41 États.
Ah ouais.
Et ça marche du tonnerre de Dieu. Il faut voir que il y avait 80% des victimes de crimes sexuels de ce type d'enfants qui ne parlaient pas. Ce pourcentage a baissé à 30%.
Alors la relation qu'on a avec nos animaux est parfois tellement forte, on peut même appeler ça un amour fou, ils font quasiment partie de la famille. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, ce fort attachement pour une autre espèce que la nôtre ?
Alors, il y a plein de choses. Alors, bon, déjà, on sait que, oui, on a parlé de la domestication, mais la domestication a quand même créé avec certaines espèces animales des liens privilégiés qui fait qu'on est plus en empathie avec eux. La révolution industrielle a fait aussi, effectivement, que ces animaux, les animaux qui avaient un rôle utilitaire, n'ont gardé qu'un rôle émotionnel, donc qui vivent avec nous à la maison. Et puis il y a aussi ces histoires de sentiments qu'on partage avec eux, c'est-à-dire que les animaux ont des sentiments comme nous, on le sait maintenant, ils sont capables d'empathie avec nous, on est capable peut-être d'empathie avec eux aussi, et donc à partager ces sentiments se créent des relations très fortes qui deviennent essentielles. Et puis il y a autre chose aussi qui est très important, c'est que l'animal on communique ou on est en relation avec lui de façon facile. Les codes sont simples. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de petites paroles bressantes, il n'y a pas de silence lourd,
de politesse,
contentieux. Et puis il y a un amour indéfectible, il y a quelque chose.
C'est pour ça que quand on les perd, ça peut être atroce. Vous dites qu'on passe même par les mêmes phases finalement de deuil quasiment
Exactement.
Qu'avec un être de notre famille.
Sauf qu'on le vit très mal parce qu'en fait on ne s'estime pas légitime. Mmh. En fait, on estime que.
On a honte d'avoir mal.
On a honte d'avoir mal.
Christophe André en début de semaine.
Pour un animal. Pour un animal, on se dit c'est pas possible de pleurer autant, alors que j'ai peut-être pas pleuré autant quand ma grand-mère est morte, mais peut-être qu'on pleure autant aussi pour son chien parce qu'il rappelle une période heureuse où justement il y avait cette
grand-mère.
C'est
même pas des fois très reconnu par les proches, hein, même par nos proches, hein, cette douleur, cette
c'est
souffrance.
C'est difficile. Ouais, Moi, je sais que mon père, quand mon chien, enfin j'avais un animal qui est mort, un chien, et mon père était venu me dire, mais je cite l'exemple de ma grand-mère, tu n'as pas pleuré autant pour ta grand-mère. Alors que j'adorais ma grand-mère, mais c'était pas le problème. Mmh. Mais c'est ce chien, je partageais plein de choses avec lui, et c'était une blessure d'enfance. En fait, c'était terrible, quoi.
C'était bien plus profond.
C'était plus. Je l'exprimais plus, on va dire. C'était un vrai chagrin que j'ai exprimé à ce moment-là. Et effectivement, on passe par les mêmes phases de déni, colère, culpabilité, dépression, acceptation. Voilà.
11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes en studio avec Laurence Paoli, spécialiste des relations entre les hommes et les animaux, autrice du livre « Quand les animaux nous font du bien » aux éditions Buchet-Chastel. Alors, on apprend aussi dans votre livre que la culture et la communication n'est pas l'apanage de l'humanité. Vous prenez l'exemple d'ours au safari parc de Thoiry dans les Yvelines. Racontez-nous ça.
En fait, la culture, on est bien d'accord, c'est pas génétique, c'est transmis d'individu à individu à travers l'éducation, l'imitation, l'enseignement. Et les ours de Thoiry, ça je l'ai vécu. En fait, c'est un parc ouvert où on se balade en voiture à l'intérieur et il y a un ours, probablement par inadvertance, qui a crevé un jour un pneu. Il s'est rendu compte avec une joie totale, j'imagine, qu'en fait, une fois que les voitures étaient immobilisées, ne démarraient pas, qu'ils pouvaient sauter dessus, entendre des hurlements à l'intérieur, tourner autour,
c'est
etc.
C'est génial. Drôlement drôle.
Voilà, le lendemain, il l'a fait volontairement. Le jour d'après, il y avait deux ours qui se livraient à ce sport. Bref, on est arrivé à 4.
Non, une épidémie.
Donc, c'est épidémie de culture. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement repéré le truc et puis c'était l'éclat total. Donc, il a fallu exfiltrer les 4 ours immédiatement parce qu'on se disait que les 30 autres allaient s'y mettre et que ça n'allait pas être possible et qu'on allait fermer le safari. Et voilà. Mais donc, on voit bien là exactement comment ça se passe et effectivement qu'il y a un apprentissage.
C'est drôle. Et est-ce que nos animaux peuvent ressentir les mêmes émotions que nous? Est-ce qu'on sait, par exemple, si notre animal, je sais pas, il peut être triste ou jaloux? Est-ce que c'est.
On sait que les animaux partagent en fait les mêmes émotions primaires que nous qui ont été déterminé par Darwin, et on parle de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la colère, de la surprise et de la peur, ça c'est sûr. On sait aussi que les animaux sont capables d'empathie, on sait aussi qu'ils sont capables pour certains d'entre eux de faire preuve d'altruisme. Donc effectivement, on touche quand même à des émotions qui sont très proches des nôtres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on établit aussi des liens si forts avec eux, c'est parce que on les identifie de façon anthropomorphique ou pas, mais on les identifie et on partage ça avec eux.
On a une question de Stéphanie sur Instagram qui nous dit « Mon fils est épileptique. Est-ce que je pourrais éduquer mon propre chien pour qu'il puisse détecter une future crise d'épilepsie de mon enfant ? J'ai vu que certains étaient dressés pour cela. »
Alors, elle a parfaitement raison sur la deuxième partie de sa question qui est que certains chiens sont dressés pour cela et ça fonctionne très bien, c'est une vraie sécurité. Mais en revanche, qu'elle le fasse elle-même me paraît pas du tout adapté. Alors, il vaut mieux effectivement le faire par une association ou une institution qui est en charge de ça.
Et tous les chiens sont capables, éventuellement, enfin bien dressés avec les bons professionnels, de faire ce genre de choses? Donc, il y a des races qui sont peut-être plus...
Alors là, je ne suis pas une spécialiste, mais j'en parlais avec Florian Offray dans 10 chiens qui me dit quand même qu'il faut... vous avez des races de chiens qui sont plus adaptées que d'autres pour certaines choses.
Il y a des humains plus empathiques que d'autres. Il y a peut-être des chiens
exactement.
Plus empathiques
puis
que d'autres
aussi. Puis vous avez des chiens plus superactifs, des chiens qui ont peut-être un odorat encore plus développé, des chiens qui sont plus attentifs.
Il y a des chiens qui détectent le cancer du sein aujourd'hui. Ça existe. Ça, moi, j'avais fait des reportages à l'époque là-dessus.
Ça existe, et vous savez qu'il y a ça, bien sûr. Et vous savez qu'il y a tout...
Le Covid aussi.
Ça me stresse. On a actuellement éduqué des chiens à repérer le Covid. J'entends parler de parents qui deviennent fous parce qu'on teste trop leurs enfants avec ce test qui est hyper intrusif. Alors, on n'a pas le choix dans le nez. Il suffirait peut-être de mettre un chien à l'entrée de l'école.
Je suis sûre que ma fille irait se faire tester avec grand plaisir.
Et il marquerait devant chaque enfant qui... Et ça fonctionnerait. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas mis en œuvre alors qu'a priori, ça marche très bien.
Alors, une autre question de Simone, 39-21, notre répondeur, qui demande si les bienfaits psychologiques apportés par les chiens dépendent de la race de ce dernier. En clair, elle voudrait savoir s'il y a des races de chiens privilégiées pour une personne, par exemple, dépressive.
Il y a sûrement des races de chiens privilégiées, effectivement. Vous avez par exemple, vous parliez tout à l'heure de chiens qui ne peuvent pas rester à Paris. Il y a des chiens qui sont super actifs, qui ont besoin de courir, qui ont besoin de contact, qui seront malheureux toute la journée, tout seul dans un appartement. Pour une personne dépressive, je pense qu'il faut un chien qui peut répondre à ses attentes et qui ne va pas lui rajouter en plus
du stress, du boulot.
Exactement. Donc, il ne lui faut probablement pas un chien super actif qui a besoin de courir tout le temps, qui aboie. Et puis, il faut, là aussi, l'éducation du chien est très importante et celle du maître aussi, accessoirement, pour que ça fonctionne.
Alors, en dehors des chiens et des chats, quels sont les autres animaux que l'on peut utiliser en zoothérapie? Enfin, alors on ne dit pas zoothérapie en France, on l'a compris, c'est médiation animale, c'est ça. Et pour soigner quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres d'animaux qu'on n'a pas évoqués? Je crois qu'il y avait des choses sur le cochon d'Inde, par exemple, dans votre livre.
Vous avez tout le cochon d'Inde, lapin, chèvre, chevaux, chien, chat. Vous avez, je pense, tous les animaux. En médiation, pas tous les animaux, mais beaucoup, beaucoup d'animaux. Et en soins par le contact animalier, tous les animaux avec lesquels vous pouvez établir un contact visuel, physique.
Parce qu'avec les écureuils, c'est compliqué, par exemple. Ils se laissent pas...
Un écureuil, si vous avez un jardin et que vous mettez des noisettes dans un coin, par exemple, et que vos écureuils y viennent tous les matins, ça vous procure de la joie.
Oui, remarquez, c'est vrai.
Moi, par exemple, je travaille, j'ai des mésanges charbonnières et des mésanges bleus qui viennent picorer ce que je leur mets. Et bien, à chaque fois, ça me fait ça. Je prends mon pied.
Une petite chose de plaisir.
Oui, mais c'est vraiment
ça.
Donc, alors là, on parle pas médiation. Bien sûr, la médiation, il faut 3 personnes. Il faut 3 individus. Il faut la personne bénéficiaire, la personne qui est intervenante et il faut un animal au milieu. Donc ça, c'est triangulaire. Mais après, le plaisir de l'animal qui vous apporte, c'est pour tout le monde.
Ouais. Alors, on va sûrement intéresser
les
parents auditeurs en détresse qui nous écoutent par rapport au sommeil de leurs enfants. Je crois qu'il y a des histoires où la présence d'un chien permet à certains enfants de retrouver le sommeil. C'est bien ça? Et comment ça fonctionne?
Alors, c'est les enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique. En fait... on ne va pas définir le trouble du spectre autistique parce qu'en fait, visiblement, il y a énormément de symptômes différents. Mais il y a une chose commune, c'est qu'en fait, ces enfants prennent les informations de façon différente, ce qui crée probablement une immense anxiété. Cette anxiété se traduit par des problèmes quotidiens qui impactent toute la famille et entre autres d'énormes problèmes de sommeil. C'est-à-dire que ces enfants qui ont besoin de dormir avec de la lumière, qui se réveillent plusieurs fois par nuit en crise d'angoisse, qui veulent dormir avec leur fratrie, avec leurs parents, bref, la famille ne dort pas. Et j'ai eu des témoignages incroyables disant qu'à partir du moment où un chien d'éveil est confié à l'enfant, alors c'est un chien qui est éduqué spécifiquement pour suivre un enfant qui est un enfant TSA. Ce sont des chiens très empathiques et qui sont là justement pour le calmer, absorber ses angoisses, être à côté. Les enfants s'en remettent à dormir en une semaine. C'est-à-dire que le chien dort avec eux, le chien les suit partout et la famille entière se remet à dormir.
C'est
il
n'y
a plus besoin de lumière, il n'y a plus besoin de porte ouverte, il n'y a plus besoin de crise, il n'y a plus de crise d'angoisse pendant la nuit. Le chien est là et il console, il rassure et l'enfant énormément.
Merci beaucoup Laurence Paoli d'avoir accepté notre invitation ce matin. Grâce à vous, on a découvert des tas de choses, vraiment des bienfaits insoupçonnés procurés par certains animaux. C'était un entretien plein de surprises. Je vous en remercie. Bonne continuation.
Oui, merci à vous. À présent, Mélanie, on va changer totalement de sujet. On va faire un focus sur la BPCO, cette maladie respiratoire assez fréquente et qui a un fort retentissement sur la qualité de vie. Comment la dépister, la soigner? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Pour parler de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive, et de façon simple, hein, c'est promis, parce que le nom de cette pathologie déjà est très compliqué. Mais vous êtes avec nous, professeur Bruno Housset, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, c'est quoi concrètement la BPCO? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition pour cette pathologie? Vraiment, franchement, il aurait fallu trouver un autre nom. Hein, quand même.
C'est vrai, on y a travaillé pas mal, mais on n'a pas trouvé de solution. Bon, c'est la, une broncho.
Rapprochez-vous un petit peu de votre micro.
Broncho,
voilà.
C'est-à-dire c'est une atteinte bronchique. Pneumonie, c'est que ça atteint le poumon distal, donc c'est vraiment atteint le poumon lui-même. Chronique, c'est que ça dure pendant des mois, des années. Obstructif, et c'est ça qui tue. Mmh. C'est l'obstruction qui va obstruer les bronches, qui va boucher les bronches et qui va aboutir à l'essoufflement.
Donc ça porte bien son nom, même si c'est un nom compliqué. Quoi.
Absolument.
Alors vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Combien de patients sont concernés en France ? C'est quelque chose de fréquent ?
C'est extrêmement fréquent. On pense que c'est à peu près 6 à 8% de la population française qui est atteinte de BPCO. Et on sait que ça fait grosso modo 3 à 4 millions de patients adultes.
Quand même. Hein.
C'est un chiffre énorme. Et si vous rajoutez d'autres maladies chroniques comme l'asthme, par exemple, vous pouvez aboutir à un Français sur 10 adultes et qui souffrent d'une maladie respiratoire chronique.
Et plutôt des hommes, des femmes ?
Plutôt des hommes encore, mais ça risque de ne pas durer très longtemps.
À cause du tabac. Hein,
actuellement, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes. Il y a 10 ans, il y avait 20% de femmes. Donc vous voyez que ça augmente de façon importante du fait de l'augmentation du tabagisme, entre autres. Oui.
Ce sont des patients qui ont quel âge en moyenne quand ça démarre ? Parce que, je sais pas, on imagine que cette maladie, la bronchite chronique, quoi, on va dire ça comme ça, c'est plutôt une maladie de vieux fumeurs. Mais, voilà.
Fumeurs de gitane, oui.
Ouais. C'est ça, je vois à qui vous faites allusion. mais c'est effectivement une maladie qui touche les gens de 65 ans à peu près, qui tout ce qui crache. Mais c'est le stéréotype qu'on a dans la tête. Et en fait, ça peut aussi toucher les femmes. Et c'est ça le point difficile pour le diagnostic et le retard diagnostic chez la femme, c'est qu'on n'a pas cette image dans la tête. En fait, ça peut très bien toucher.
Et on peut avoir 35 ans, 40 ans et avoir une BPCO, c'est possible ?
Oui, ça peut, c'est possible. C'est rare. Ouais. C'est rare. Mais le point important qu'on a découvert ces années récentes, c'est qu'en fait, ça pouvait prendre ses racines dans l'enfance.
Ah bon ?
Et que même une femme enceinte exposée à la pollution, par exemple, pouvait donner naissance à un enfant de petit poids.
Oui.
Et le petit poids de naissance est un facteur de risque pour le développement ultérieur d'une BPCO. C'est-à-dire que vous êtes à risque, si vous fumez, vous êtes plus à risque que ceux qui avaient un poids normal à la naissance.
J'ai fumé, je faisais 2,4 kg à la naissance, c'est embêtant.
C'est bien,
ça.
Si vous vous souvenez de votre poids de naissance, c'est bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Bah, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une maladie grave ? Est-ce qu'on peut mourir de la BPCO ?
On meurt de la BPCO. Et les chiffres sont vraiment impressionnants, parce que c'est 16 à 18 000 morts par an. C'est 4 fois plus que les accidents la route. Et on en parle beaucoup moins.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est vraiment quelque chose de très très fréquent.
Alors pourquoi on n'en parle pas d'ailleurs ?
Eh bien parce que 2/3 en fait de ces BPCO ne sont pas diagnostiqués, donc il y a un problème de retard au diagnostic, et puis l'identification de cette maladie...
Est pas facile.
Non, est pas si simple que ça. On va y revenir, je pense. Oui.
Ce qui va causer principalement la BPCO, vous nous l'avez dit, c'est le tabac. Ça nous paraît pas étonnant, le tabac c'est mauvais pour les poumons, mais on sait surtout que ça provoque le cancer du poumon. Qu'est-ce qui se passe justement pour que le tabac cause de la bronchite chronique, comme ça, de la BPCO ?
Dans la définition, je vous ai pas infligé l'inflammation des petites voies aériennes, c'est une inflammation en fait distale des voies aériennes qui font moins de 2 mm de diamètre.
Ça veut dire quoi distale ?
Distal, c'est loin dans les bronches. C'est vraiment ce qui précède juste les alvéoles quand vous arrivez dans les poumons.
Donc c'est inflammé tout le temps.
Et c'est inflammatoire du fait de ce pouvoir agressif inflammatoire de la fumée de tabac.
Oui.
C'est vrai aussi d'autres produits, notamment la pollution. Si vous êtes exposé à une très forte pollution, ça peut aussi arriver. Mais c'est surtout le tabac parce qu'il provoque cette inflammation distale et cette obstruction.
Est-ce qu'il peut y avoir un facteur génétique ?
Bien sûr. Nous ne sommes pas égaux et nous ne sommes pas égaux devant le tabac. Si vous prenez à peu près 10 sujets qui fument, 8 à 9 vont tous s'écracher. Mais il n'y en a que 2 à 3 qui vont développer une BPCO, qui vont développer une obstruction. Et probablement parce que c'est une interaction entre l'environnement et son génome.
Alors, côté symptômes, on l'a compris, dans la BPCO, on tousse, mais au départ, est-ce que ça tousse vraiment beaucoup, au départ de la maladie ?
Souvent, vous toussez, vous crachez. C'est ce qu'on appelle la bronchite chronique. Mais vous pouvez aussi ne pas tousser, ne pas cracher et voir un essoufflement s'installer progressivement.
Il faut tousser combien de temps ? Parce que je veux dire, là, bon, certains ont eu le Covid, il y a des maladies de l'hiver, là où on va tousser, on a des bronchites. C'est quoi la différence entre j'ai une bronchite et je tousse et c'est anormal
C'est la durée. La bronchite chronique est définie par plus de 3 mois pendant 2 ans consécutifs. Donc ça, c'est pas normal, il faut absolument consulter. Mais quelquefois, vous ne toussez pas et le seul symptôme, c'est l'essoufflement.
Même pas forcément.
D'abord à l'effort et ensuite au repos, mais à l'effort, et ça, c'est difficile de s'en rendre compte.
Et une fatigue aussi ? On peut être fatigué ou...
Ça, c'est les mots qui sont utilisés pour dire je suis essoufflé. Ça peut être très, très variable. Si les sujets âgés, par exemple, qui peuvent avoir une BPCO, ils ont du mal, ils vont dire « je suis fatigué ». Quand je monte les escaliers, je suis fatigué.
Mais quand on respire mal, on ne doit pas
être... En fait, ils sont essoufflés. Ouais. Et ce bien-être respiratoire, là, on n'est pas préoccupé. Nous, là, autour de ce micro, on n'est pas du tout préoccupé par notre respiration. Ça paraît complètement
avec le masque, c'est
normal.
Peut-être
le masque, c'est vrai. Le masque a fait prendre conscience aux gens qu'on pouvait être gêné pour respirer. Et donc ça, c'est un point intéressant parce qu'autrement, on n'a pas de notion de
on
ce que c'est
pas.
Que les
soucis. On respire et puis c'est tout.
On n'y pense pas. Mais quand ça devient vraiment un combat, quand ça devient une souffrance et qu'on voit que ça se rétrécit autour de ce souffle qui manque, là, ça devient très, vraiment très, très difficile.
Très pénible.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors à présent, on vous éclaire sur ce qu'est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive, une maladie respiratoire assez fréquente qu'il est important de déceler le plus tôt possible. C'est vous, professeur Bruno Housset, qui nous éclairez sur cette maladie ce matin. Je rappelle que vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Alors je le disais, mieux vaut la dépister tôt cette pathologie. Et justement, vous diriez qu'en France, est-ce que c'est le cas en général ?
Hélas ! Non. Hélas, nous, on a beaucoup de progrès à faire. J'évoquais tout à l'heure, il y a à peu près 2 cas sur 3 qui ne sont pas diagnostiqués.
Cette maladie, ils vivent avec, ils souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils ont ça.
Ils sont un peu âgés, donc ils disent c'est normal, je vieillis, donc je suis un peu essoufflé. Mais non, c'est un problème respiratoire, il faut vraiment s'en préoccuper. Et ça m'amène à dire qu'on s'est mobilisé là-dessus. On a fait un livre blanc de la BPCO, les pneumologues. On a eu des états généraux respiratoires, de la santé respiratoire au mois de décembre dernier, pour dire qu'il fallait vraiment se mobiliser pour lutter contre les maladies respiratoires qui sont insuffisamment connues. Il y avait eu un sondage qui avait été fait par la SPLF avant ces états généraux de la santé respiratoire. Ce sondage montrait que plus d'un Français sur deux se disait mal informé. Donc on y travaille ensemble en ce moment, mais c'est vraiment important d'informer les Français sur les signes qui doivent alerter.
Alors dans l'idéal, justement, vous disiez, il y a beaucoup de patients qui ne sont même pas au courant qui souffrent de cette maladie, et il faudrait consulter le plus tôt possible, parce que plus on consulte tôt, je ne sais pas, est-ce qu'on a des chances de revenir en arrière? C'est une maladie réversible, par exemple?
Hélas, non. Autant dans l'as, je dirais que ça revient, on peut revenir à un état antérieur. Autant la BPCO, non, il faut stabiliser en fait l'évolution. Et on sait que si on arrête de fumer, par exemple, on va stabiliser l'évolution. Vous retrouvez un déclin, une diminution de votre fonction respiratoire identique à ceux qui ne fument pas. Et donc c'est ça le point important, c'est d'arrêter de fumer et de se préserver de toute agression environnementale.
Il n'y a pas le choix. Le tabac, ce n'est pas une option dans ces cas-là.
Ce n'est pas une option.
Ok. Et si on commence à avoir une toux qui dure, au bout de combien de temps on consulte?
Je vous disais tout à l'heure que c'était plus de 3 mois par an pendant 2 ans consécutifs. Donc si ça dure plus de 3 mois, il faut quand même se poser des questions, il faut consulter.
Mais qui?
Si vous allez sur le site amélie.fr, il y a un questionnaire qui permet d'identifier éventuellement les signes qui doivent faire consulter un médecin généraliste.
Pas forcément un pneumologue tout de suite, c'est pas nécessaire au départ.
On peut s'il y a des signes de gravité, mais vous savez quand même que 16% des BPCO sont diagnostiqués parce qu'ils arrivent à l'hôpital en exacerbation.
Ça veut dire quoi, exacerbation? C'est une crise.
L'exacerbation, c'est une poussée de la maladie, en fait. D'accord. Ils sont très essoufflés.
Ils ont besoin d'oxygène, peut-être, c'est ça
essoufflés. Ils peuvent avoir besoin d'oxygène. 16% qui ne sont pas diagnostiqués et qui arrivent à l'hôpital, et c'est à ce moment-là qu'on fait un diagnostic. Donc vraiment, c'est important. Donc quand c'est grave, un pneumologue, mais le plus souvent, c'est un médecin généraliste, d'autant qu'il y a des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui sont plus fréquentes qu'on doit rechercher.
Ils ont plus souvent de cancer du poumon, ça, il faut le dire, exemple, malheureusement, parce que c'est des gros fumeurs.
Ils ont
donc
plus souvent aussi des altérations cardiovasculaires.
Ah oui.
Plus souvent des cardiopathies ischémiques.
Risque de faire des infarctus ou des choses comme ça.
Donc ça, il faut, à ce moment-là, quand on fait un diagnostic BPCO, il faut rechercher les comorbidités. Vous voyez que c'est quelque chose de plus large que la pneumologie, et donc c'est vraiment un médecin généraliste qui doit s'occuper de ça.
Alors, quels examens vous allez prescrire pour confirmer que c'est bien une BPCO ?
Il faut mesurer le souffle. Ça, on peut former beaucoup de professionnels de santé.
Vous faites souffler dans un tube, en gros.
On vous demande d'inspirer à fond et de souffler le plus fort possible.
Et vous mesurez la capacité respiratoire,
On mesure la capacité respiratoire.
Comme avec un asthmatique, finalement, non ?
Exactement, mais ça, c'est une manœuvre qu'on utilise pour rechercher des anomalies respiratoires de plusieurs pathologies, plusieurs pathologies différentes. Mais c'est important, et là, on va montrer qu'il y a une obstruction. Et donc vous expirez un volume qui est inférieur à celui qu'on attend, et à ce moment-là on vous donne un bronchodilatateur de façon à voir si ça revient en arrière. Si ça revient en arrière, c'est plutôt un asthme. Si ça bouge pas, c'est plutôt une BPCO.
Oui. Donc on le disait, il y a un risque qu'il y ait un cancer. Du coup, j'imagine chez ces patients qui sont quand même en général tabagiques de longue date, ça, c'est pas justement ça qui empêche aussi un peu le diagnostic, je dirais, de la BPCO. Ils ont un peu la trouille que finalement, en cherchant, on trouve encore quelque chose d'encore plus grave, à savoir un cancer pulmonaire.
Oui, mais c'est un sujet quand même qui est complètement complètement différent. C'est sûr que c'est chez les fumeurs qu'on va se poser cette question et que, bien sûr, le fumeur a aussi un déni, il n'a pas envie qu'on aille trouver quelque chose de grave. Mais ceci étant, le dépistage du cancer du poumon, c'est encore un autre sujet avec, avec l'utilisation de scanners, par exemple. Et ça, c'est différent de la spirométrie ou de la mesure du souffle qu'on vient d'évoquer. Mais chez les sujets qui ont une BPCO, on va proposer un scanner à condition qu'ils arrêtent de fumer, avec une perspective de suivi. Enfin, c'est un autre domaine que de dépister le cancer du poumon chez un sujet qui a une BPCO.
Alors, on l'a vu, hein, l'arrêt du tabac n'est pas une option. Les effets, les bénéfices justement de cet arrêt sur ces patients, on les voit tout de suite ou pas? Il faut attendre combien de temps?
Il faut être un peu patient parce qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines. On peut même avoir une augmentation un petit peu de la toux, des sécrétions.
J'ai l'impression que ça le fait à tous les fumeurs quand on arrête de fumer, on tousse. Moi, j'ai toussé pas mal au début de l'arrêt du tabac.
Il y a une régénération de l'épithélium, c'est comme ça qu'on explique un peu les choses. Et donc, vous pouvez aussi avoir des troubles du sommeil avec une activité onirique.
Oui, je dors très mal.
Une activité onirique importante. Et donc, des rêves. Et donc, ça dure 15 jours, 3 semaines. Et puis après, vous êtes mieux. Mm-hmm. On en sent les bénéfices sur l'essoufflement. On en sent les bénéfices sur le goût, l'odorat. On sent mieux les choses. Et donc, on apprécie davantage la bonne chair.
Je crois qu'il est très important chez ces patients BPCO, qui souffrent de BPCO, de vérifier les vaccinations de ces patients. Pourquoi et contre quoi précisément on vérifie qu'ils soient bien protégés?
Il y a deux vaccins qui sont. Maintenant, il y a un troisième. Mais il y a deux vaccins qui sont de base, qui sont le vaccin antigrippal, qui réduit la mortalité de façon, et les formes graves de grippe.
Quand on a une BPCO, on est plus à risque d'avoir une forme grave de grippe.
Absolument. Donc, il faut vraiment se vacciner contre la grippe. Ça, et c'est relativement suivi. Et le pneumocoque est le deuxième germe contre lequel il faut éventuellement se faire vacciner. On a moins d'éléments de preuve, mais ça reste de bonne pratique que de vacciner contre le pneumocoque. Et le troisième vaccin, qui est quand même plus récent, c'est le vaccin contre le Covid. Et donc ça aussi, c'est une population chez qui il faut vacciner.
Ils sont plus à risque, ces gens-là, de faire une forme grave de Covid?
Alors, il y a des choses intéressantes qui ont été faites, notamment en Angleterre, où on montre qu'il y a une diminution des hospitalisations pour exacerbation, de façon générale, l'exacerbation des BPCO. Et ça, c'est la conséquence des mesures barrières. C'est-à-dire que vous limitez l'exposition à différents virus respiratoires. Ça a été vu aussi chez l'enfant. Mmh. Et puis, par contre, ceux qui sont hospitalisés pour une exacerbation liée au Covid, ceux-là sont plus à risque de décès. Alors, et donc, c'est un argument supplémentaire pour vacciner.
On parlait tout à l'heure des traitements médicamenteux que vous leur prescrivez dans un premier temps. Il y avait les bronchodilatateurs, c'est bien ça?
Oui. Avant de parler de bronchodilatateurs, je dirais qu'il y a d'autres approches qui sont non pharmacologiques et qui sont extrêmement importantes à prendre en compte, notamment l'activité physique. Ah. Parce que ce sont des gens qui sont souvent sédentaires, qui ne vont pas bouger. Et puis, comme ils sont essoufflés, ils vont
rester encore plus. Ils font plus d'efforts, en fait, au quotidien.
Et donc, c'est important de leur redonner une activité physique, ça leur redonne une autonomie.
Et ça va les soigner? Le sport va être un médicament pour eux?
Oui, absolument. Absolument. C'est une réadaptation respiratoire et ça leur redonne de l'autonomie.
Et ils pourraient se passer des bronchodilatateurs ou peut-être pas?
Ça les soulage. C'est deux approches différentes. Mais vraiment, l'activité physique est quelque chose d'extrêmement important.
Et vous leur prescrivez également des corticoïdes ou pas?
Alors, dans les médicaments qu'on utilise, effectivement, ce sont les bronchodilatateurs. Il y a deux classes de bronchodilatateurs. On peut utiliser une classe, puis après l'association des deux classes. Et puis, si ça ne fonctionne pas, si c'est insuffisant pour soulager, on peut essayer la corticothérapie dans des conditions particulières. Il y a une surprescription majeure de corticoïdes inhalés en France, mais aussi dans les autres pays, on n'est pas les seuls. Et donc, il faut vraiment se réserver les corticoïdes pour des cas particuliers.
Bon, tous ces médicaments dont on vient de parler, c'est pour améliorer la qualité de vie, la respiration. Mais est-ce qu'il y a on ne peut pas traiter, on est d'accord, on ne peut pas guérir. Il y a des traitements, je crois, endoscopiques. Alors, du coup, vous allez dans les bronches et vous faites quoi concrètement? C'est de la chirurgie?
Alors, pour expliquer ça, en fait, quand vous avez une BPC, vous avez une distension. Ce qui explique que vous soyez essoufflé, c'est que vous êtes distendu. C'est-à-dire que vous avez le poumon qui gonfle, entre guillemets. Et donc, l'idée pour guérir ça, c'était de réduire le volume pulmonaire. Et pour réduire le volume pulmonaire, vous pouvez faire une chirurgie, on enlève un bout de poumon, ça réduit le volume. Et à ce moment-là, comme il y a une diminution de la distension, vous avez des muscles respiratoires qui sont dans une meilleure situation pour fonctionner. D'autres techniques pour réduire le volume, ça a été effectivement les valves endobronchiques. On met des valves qui laissent sortir l'air, mais pas rentrer l'air. Donc ça veut dire que la zone de poumon qui est derrière la valve, c'est s'écraser, disparaître.
D'accord.
Une autre façon de... Alors ça suppose qu'il n'y ait pas de communication entre les différents lobes. Et donc, il y a des scissures qui peuvent communiquer.
Ouais.
Et donc, ça ne marche pas à tous les coups. Et il y a d'autres façons de faire, c'est de mettre des ressorts, des coils, ce qu'on appelle, et donc ils vont s'enrouler dans le poumon et qui vont par ce biais diminuer le volume. Mmh. Et puis il y a d'autres techniques avec la vapeur, éventuellement de chauffer, et donc ça va provoquer une inflammation qui va diminuer le volume. Mais tout ça, c'est plutôt du domaine de la recherche. Ouais. Ça reste quand même d'une indication très, très, j'ai pas chance, très sélectionnée.
D'accord. Alors, pour conclure, et ce qu'on peut dire à nos auditeurs, aux patients qui ont un doute, surtout vous consulter, parce que si j'ai bien compris, être fumeur et tousser, c'est pas normal. Être fumeur et être essoufflé, c'est pas normal non plus. C'est bien ça la conclusion ?
C'est pas normal. Il y a plein de domaines sur lesquels on peut avancer encore. Par exemple, je vais évoquer le microbiote. Mm-hmm. Vous savez, on a des germes dans les poumons. Et ça, en fait, ça va jouer un rôle aussi dans le développement de la BPCO. Il y a des études, des recherches qui se font là-dessus. Sur les cellules souches, on en parle un petit peu. Mais les cellules souches, il y a des gens qui travaillent pour essayer de régénérer le poumon. Je vous dis que ce n'est pas réversible. Si on peut trouver
peut-être, une
technique. Donc oui, il y a des pistes de recherche. Et c'est pour ça qu'à la Fondation du Souffle, on essaie de financer ce genre de recherche. On a besoin de votre soutien de ce point de vue. Allez donc sur le site de la Fondation du Souffle.
Pour aider la recherche.
Exactement.
Très bien.
Merci beaucoup, professeur Rousset, de nous avoir accompagnés ce matin et pour toutes ces précisions sur cette maladie respiratoire, la BPCO, dont on parle peu, mais qui est pourtant assez fréquente. Et donc, on l'a compris, tout l'enjeu, c'est vraiment de la dépister et de la traiter le plus tôt possible.
Merci beaucoup, professeur. Allez, maintenant, Julia, on va lancer notre séquence tendance. On va l'ouvrir avec la chronique de Marion Sauveur. Aujourd'hui, c'est la banane qu'elle va mettre à l'honneur. La banane, tout le monde l'aime en général. Mais que peut-on faire concrètement en cuisine avec ? Marion va nous guider. Ensuite, c'est Elsa Lévy qui va nous faire découvrir l'écosexualité. C'est de plus en plus à la mode. Il s'agit de faire l'amour avec la nature. C'est un peu conceptuel, dit comme ça, mais vous verrez, c'est très intéressant. Et elle va nous expliquer comment ce que ça donne, en fait, hein, dans la vraie vie. Et enfin, on écoutera également la chronique de Séverine Pierron qui va nous décrypter ce qu'est le shifting, une tendance chez les jeunes, hein, les 15-20 ans, des petites vidéos très bizarres. Mais on va vous expliquer tout ça, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui rendent notre vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement sympa en général pour terminer la semaine, ce sont les conseils culinaires de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous allez nous donner la banane aujourd'hui.
Oui,
hein,
on va l'avoir et on va la cuisiner surtout.
Génial.
Et ensuite, ce sera à vous de jouer, Elsa Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai dit jouer, mais je sais pas si on joue quand on pratique l'éco-sexualité. Il y a quand même un côté ludique, non, dans cette tendance.
Il y a un côté ludique. D'ailleurs, ça peut même faire rire, mais vous allez voir que ceci est très, très sérieux.
Ouais, vous savez que notre invité précédent, il voulait presque rester.
Le professeur.
Ouais, le professeur nous a dit, oh là là, c'est éco-sexualité. Qu'est-ce que
ça? Il écoutera l'émission.
Voilà. Et enfin, on terminera la séquence tendance du jour avec vous, Séverine Pierron. Bonjour.
Bonjour.
Alors, encore un truc de jeunes que vous allez décrypter aujourd'hui pour nous, c'est le shifting. En quelques mots, il s'agit de quoi, le shifting?
Alors, en quelques mots, il s'agit d'une tendance, évidemment, sur TikTok, ce réseau social que vous connaissez bien sûr. C'est un voyage mental que font les jeunes.
Un voyage mental
depuis leur lit. Depuis.
Ok, c'est vrai.
C'est souvent depuis leur lit.
Ce sera
si je puis me
vous dans quelques minutes. Ça sera sans drogue, bien sûr. Mais à présent, on va vous filer la banane dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Marion Sauveur, on va faire le plein d'énergie avec un fruit exotique.
Et oui, la banane, le deuxième fruit préféré des Français après la pomme, un fruit qui est gourmand, parfait en hiver parce qu'elle est riche en fibres, en minéraux, en vitamines. Elle stimulerait même notre sérotonine, vous savez, l'hormone du bonheur. Et elle nous aide donc à avoir la banane. Mais oui,
c'est cette version des mignons, là, c'est chou comme tout.
Alors la banane aurait en fait son apparition il y a bien longtemps puisqu'on a retrouvé un fossile d'un bananier en Inde datant de plus de 50 000 ans. Mais la chair du fruit était pleine de pépins à l'époque et donc pas vraiment comestible. Il faut attendre donc sa domestication. C'était il y a 10 000 ans. C'est le
on
premier
a parlé de domestication
cultivé.
Des chiens tout à l'heure, maintenant on parle de domestication de la banane. Disons, on apprend des choses.
Premier fruit cultivé, cette banane en Indonésie donc, et son arrivée aux Antilles, c'est bien plus tard, c'est au 16e siècle. Il faut attendre 2 siècles avant de croquer dans une banane en Europe et donc que les techniques de conservation et de transport s'améliorent pour que la banane gagne le cœur des Français. Et on le doit notamment à Joséphine Baker et à sa jupe aux 16 bananes.
Bah oui. Comment ça pousse la banane alors ?
Alors ça pousse sur un bananier qui n'est pas en fait un arbre mais une grande plante herbacée et de cette plante va naître une jolie fleur bordeaux et de cette fleur sous ses pétales on va voir apparaître donc les bananes. Elles poussent en fait en rangée, c'est ce qu'on appelle les mains. On va avoir des mains de bananes. Et c'est pour ça que chaque banane peut être appelée un doigt.
C'est quasiment, enfin, c'est symétrique, c'est très beau. Hein.
C'est assez incroyable. Les unes au-dessus des autres, comme ça, c'est ce qui va former un régime.
Oui, je m'extasie devant des bananes, mais c'est un régiment de petites bananes. Donc c'est pour ça que j'avais déjà vu des bananes dans ma vie, quand même.
Et une fois que le régime donc, est récolté, la plante laisse la place à une jeune pousse. Et la banane a une petite particularité, comme le brugnon ou le kiwi. Est-ce que vous la connaissez ?
Non. Comme le brugnon ou le kiwi.
C'est bon ?
Oui.
Ouais, non, je sais pas.
Alors, c'est un fruit climactérique. Alors, ça veut dire qu'il continue de mûrir une fois qu'on l'a récolté. Donc, on cueille les bananes vertes. Aussi, bah oui. Et puis, elles vont continuer de mûrir. Elles vont devenir sucrées, moelleuses.
Climactérique, d'accord.
Climactérique.
Okay, climactérique, d'accord.
Voilà, exactement. Alors, il existe plus de 1000 variétés de bananes dans le monde.
Sérieux ?
Même une japonaise, la Monji, qui se mange avec la peau. Alors, en France, on n'a pas ce genre de banane qui arrive. Mais on en consomme seulement quelques variétés. Est-ce que vous connaissez le nom de cette banane commune ?
La classique, voilà. La jaune. La Cavendish ?
J'ai lu votre feuillet. La Cavendish, voilà, cette banane longue à taches brunes. Là, on a les petites, ce sont les fraisinettes.
Oh, elles sont
Et
trop
puis,
mignonnes.
On a une catégorie de bananes à cuire qui s'appelle la banane plantain.
Bah oui. Bien voilà. Sûr. Alors justement, comment on peut la cuisiner, la banane classique hein ?
Alors on a l'habitude de la manger en dessert et pourtant elle peut très bien être cuisinée comme un légume. C'est ce que nous explique la chef Angèle Ferremag de la Guinguette d'Angèle à Paris.
On peut faire plein de choses en salé en fait avec la banane. C'est comme apporter une petite touche sucrée finalement. Le pané, la patate douce, la betterave, enfin les légumes racines en général sont très sucrés eux aussi. Donc, on peut la cuisiner un peu de la même façon. Par exemple, si on fait des légumes rôtis au four, on peut rajouter un peu de banane. Moi, j'aime beaucoup la mettre dans des currys, donc avec plein de légumes verts, etc., dans du lait de coco ou la crème d'amande, par exemple. On peut la faire frire, on peut la mettre dans des petits beignets avec de la courgette, des œufs et de la pomme de terre qu'on fera revenir à la poêle. Et puis, elle est délicieuse.
Ouais, elle va apporter une texture moelleuse, très gourmande en fait à vos plats. Je vous propose d'ailleurs de déguster deux plats différents. Vous avez un curry rouge de légumes, riz complet et banane rôtie. Et une soupe de panais.
Parce qu'on vient d'entendre Angèle Ferremag, pardon, mais je voulais dire, Julia n'a pas tout fini encore. Hein. C'est bien pour une fois.
Ah ça c'est très très bon.
Curry avec la banane.
Curry. Alors c'est plein de légumes justement, des légumes de saison, c'est ça l'intérêt. Et on peut s'amuser à vraiment traiter la banane comme un légume lambda.
On régale, Julia.
C'est vraiment bon.
Mon curry, c'est bon. Hein.
Oh là là.
Qui a fait ce curry, là ?
Ah, c'est Angèle, justement.
Ah oui, c'est délicieux.
Angèle Ferremag qu'on peut retrouver à la guinguette d'Angèle.
D'accord. Et elle se cuisine aussi en dessert.
Mais oui.
D'accord. En dessert, la banane, non ?
Il était pourri, votre d'accord.
En dessert, mais aussi pour le petit déjeuner, vous pouvez faire un porridge, par exemple, avec la banane. Vous mélangez ces bananes que vous écrasez à des flocons d'avoine, vous cuisez avec un petit peu de lait, avec des amandes, un petit sirop d'érable par-dessus, et des petites bananes en rondelles, ça va être délicieux. Ça, c'est la soupe, Julia.
Ah, c'est pour ça.
La soupe de panais.
Alors, mais il y a de la banane dedans,
ouais.
Donc c'est ça ?
Panais, banane.
Une soupe, ça ressemble plus à un velouté. Non,
non mais c'est justement, c'est très consistant parce qu'on a c'est une soupe panais, banane.
D'accord.
Au petit déjeuner, vous pouvez aussi faire des pancakes. Alors ça, c'est la recette également d'Angèle. Vous mélangez juste deux œufs avec une banane et vous faites cuire, pas besoin de farine ni rien du tout. Vous faites cuire vos pancakes comme ça, c'est tout simple. Vous rajoutez quelques petites rondelles, c'est assez sympa avec le sirop d'érable. Et moi, j'adore la banane flambée, la banane rôtie qui danse comme ça avec le caramel, c'est juste un
délice. Et les bananas split aussi, on
aime. Ah,
bien.
Mais
oh là
oui,
là
c'est
là.
Trop bon.
C'était mon dessert préféré quand j'étais petite.
Le banana split.
C'est léger en plus.
Mais oui, avec la chantilly, les boules de glace. Mais c'est ça qui est bon. La banane, elle peut se manger de plein de manières différentes. Puis il y a une recette facile que vous pouvez faire à la maison. C'est un dessert facile, gourmand. C'est le cake à la banane.
C'est trop bon le cake à la banane.
Le banana bread. Donc on commence par mélanger des œufs avec du sucre avant d'ajouter un petit peu de beurre, de la farine, de la levure. Rien de compliqué, vous ajoutez ensuite les bananes écrasées, bien mûres. Plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées, plus elles apporteront du goût à votre cake. Quelques noix concassées, des pépites de chocolat pour la gourmandise. Et puis vous allez cuire dans un moule à cake beurré et fariné. Mais avant de mettre au four, vous allez couper une banane en deux, hop, et vous allez la disposer comme ça sur votre cake. Et comme ça, quand vous allez sortir votre cake du four, au bout de 45 minutes, vous avez un joli cake avec la banane en plein milieu.
Oh, c'est joli en plus. J'en ai déjà fait des bananes à bread, mais jamais avec la banane en déco.
Mais si,
bonne idée, ça.
Ouais, vous avez envie d'en faire un,
non,
hein,
pas du tout.
Il y a plein de bananes, là, du coup.
Bon, en tout cas, ce curry-là, avec la banane,
c'est délicieux.
Il y a de la courge, enfin...
De la courge, des carottes. Vous pouvez vraiment vous amuser avec la banane. Faut pas que la cuisiner en dessert. Faut s'amuser à la mettre dans les plats. C'est comme un légume.
Ouais, c'est super.
Vous avez aimé les filles, Séverine, Elsa?
C'est pas mal du tout. Après, moi, j'aime beaucoup plus en dessert, notamment les bananes flambées avec un peu d'alcool.
Forcément, un peu de rhum.
Sinon, c'est pas drôle.
Eh bien, merci, hein, Marion. On va retrouver votre recette sur europe1.fr. Merci pour tous vos conseils et cette belle mise en valeur de la banane que vous nous avez proposée ce midi. On va revenir dans un instant avec d'autres très joyeuses tendances. L'éco-sexualité avec Elsa Lévy. Je crois qu'il s'agit de faire l'amour, d'érotiser la nature. Hein. Ça a l'air un peu perché comme ça. Mais Elsa, vous nous expliquez tout ça avec les pieds bien sur terre. Et puis, il y aura aussi la chronique de Séverine Pierron consacrée au shifting, une expérience
perché aussi un peu aujourd'hui,
un
hein.
peu perché, ouais, qui donne lieu à des tas de vidéos de jeunes sur TikTok. Ce sont des sortes de rêves lucides qui cartonnent sur Internet. Alors pour en savoir plus, restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance se poursuit avec nos trois chroniqueuses, toujours à nos côtés en studio. Avec Marion Sauveur, on a dégusté tout un régime de bananes. Elle nous a surtout donné ses astuces pour sublimer ce fruit chez nous comme un légume. Et maintenant, c'est à vous de sublimer la nature, je crois, Elsa Lévy. On veut tout savoir sur l'éco-sexualité.
Mais oui, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé des fleurs qui auraient un impact sur notre système hormonal. Eh bien, en voulant creuser le sujet, j'ai découvert cette tendance un peu particulière qui est l'éco-sexualité. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de personnes qui déclarent leur amour à la terre en, par exemple, en embrassant les arbres, oui, en se frottant contre de l'herbe, en massant une pelouse avec leurs pieds, en caressant des pierres.
On peut faire des bisous à des bananiers.
On peut faire des bisous à des bananiers. On peut faire ce qu'on veut. On peut chuchoter à l'oreille des arbres ou encore jouir dans une rivière ou à travers le ressac de la mer. Je mets ce morceau parce qu'à un moment, il dit « Le soleil au zénith me surexcite ». Alors peut-être déjà un éco-sexuel était Serge. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans la nature ?
On doit répondre, vraiment.
Non, sur le cas, sable, alors.
C'est fréquent. Bah, alors, sur le sable, voilà. Enfin, dans ces moments-là, vous aviez simplement oublié ou pas eu conscience que vous partagiez ce moment avec le foin, si vous étiez dans une ferme,
non,
ou avec l'herbe, si vous étiez... Ça gratte, si vous étiez dans un champ, ou avec l'eau, si vous étiez dans la mer. Enfin, ça arrivait à quand même beaucoup de gens. Là, il n'y a rien de fou. Alors après, bien sûr, ça peut prêter à rire. Je vois que vous êtes un peu perplexe, d'ailleurs. Mais figurez-vous que la démarche est loin d'être insensée. C'est même devenu une identité affirmée qui revendique des défendre la planète. Cette tendance a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire sur Arte ou encore d'une émission dans Crac Crac sur Canal+. À l'origine, ce sont deux Américaines artistes et militantes en couple dans la vie comme sur la scène, Elizabeth Stephens et Annie Sprinkle. Selon elles, l'écosexualité signifie que vous trouvez la Terre érotique et que vous la traitez comme un objet d'amour plutôt que comme une ressource exploitable à l'infini. Et l'idée, c'est de célébrer notre point E et de viser le coït vert.
Il est où celui-ci ?
E, c'est Earth.
Ah, ok.
Donc peut-être le point T.
Le point planète, quoi.
Le point T pour la Terre, le point
ouais.
P.
Ouais, le point B, voilà, c'est ça. Okay.
Le point G, le point globe, tout ce qu'on veut. Le point E, donc. La tendance est apparue au début des années 2000 sur des profils de sites de rencontres et le terme écosexuel s'est rapidement développé à travers le monde. Selon le magazine Outside, en 2017, on comptait plus de 100 000 personnes qui se considéraient écosexuelles alors qu'elles n'étaient que 100 en 2015.
Mais c'est qui ces gens ? Oui. C'est quoi leur réseau ?
Vous
leur
en
profil ?
Êtes-vous, Elsa, de ce...
Non, j'en suis pas.
Ah,
mais alors, selon un... Mais je suis pas à l'abri de devenir.
Mais...
Hein, on peut tous devenir écosexuels. Selon un manifeste qu'ont rédigé les deux artistes, la communauté comprendrait sans surprise des naturistes, mais aussi des artistes, des universitaires, des sexologues, des militants écologiques, des entrepreneurs, des thérapeutes, des avocats, des scientifiques, bref.
Là, tout le monde.
Tout
hein.
le monde. Ouais. La communauté se revendique polymorphe et pollen amoureux.
Oh, pollen amoureux, bah oui.
C'est joli quand même. Hétérosexuels, homosexuels et LGBTQIA+. Le sigle est de plus en plus précis. En connaissez-vous d'ailleurs toutes les significations ?
Absolument
oui,
pas.
Moi, oui. Je connais, moi.
Ah bon ?
Alors, c'est quoi, Séverine ?
Alors, c'est lesbienne, gay, bi, trans, intersexe.
Queer, il y a le queer.
Avant, ouais. Intersexe et asexuel.
Ah, et le
et
plus, c'est quoi ?
Et le plus, c'est pour dire ça continue.
Il y a plein d'autres. Toujours, voilà. Mais bravo. Oui, non, mais c'est important quand même d'être à la page.
D'accord.
En tout cas, tous ceux qui rejoignent le mouvement n'ont qu'une devise, hein, c'est de sauver la planète grâce à l'amour.
Donc c'est surtout un mouvement militant, c'est ça ?
Voilà, c'est un mouvement, alors même si l'écosexualité est une pratique sexuelle réelle ou sensuelle pour certaines personnes, c'est surtout une mobilisation écologique. Le monde de l'art...
Je crois qu'elle fait l'amour avec la banane, Julie, elle arrête pas de manger, de manger.
Et le bois de sa fourchette.
Vous pensez que je suis écosexuelle ?
Ça a l'air bien parti.
Encore une fois, on n'est jamais à l'abri. Hein. Donc le monde de l'art commence à laisser une place plus importante à cette tendance à travers des expositions, des performances, des films qui veulent nous inviter à repenser notre relation avec la nature, notre façon
Oula,
de
ça donne quoi un film X écosexuel du coup
je suis pas sûre de vouloir ça. Et de consommer ces ressources. Voilà. Mais si vous êtes encore un peu frileux à cette tendance, il y a d'autres façons de réduire notre empreinte environnementale lors de nos rapports sexuels. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes comme ça ?
Non.
Bah, non, on n'est pas...
Bah, alors un truc tout bête, hein. Par exemple, on nous invite à faire l'amour dans le noir hein, plutôt
ah bah,
que
oui.
d'allumer
ça
la lumière.
Ange. Ça, on connaît, oui.
Voilà, utiliser des draps en coton, éviter les longs rapports sous la douche, privilégier des lubrifiants naturels, des préservatifs vegan en caoutchouc naturel ou encore des sextoys écolos. Okay. Et il y a un collectif qui s'appelle Génération Cobaye qui a écrit les 7 commandements de l'éco-orgasme. Donc c'est pour une sexualité plus responsable. Ça s'adresse plutôt aux moins de 30 ans, mais à titre d'exemple, ça va dire pour ton célibat, un canard sans phtalate, tu choisiras. Des jeux culinaires sans additifs alimentaires, tu feras. Une pénétration sans perturbateur endocrinien, tu testeras, etc. Bon, enfin, bah, une dernière chose qui là s'adresse à toutes les catégories d'âge et hétéro, homo, LGBTQIA+. sachez que la consommation de films pornographiques sur Internet est l'une des plus polluantes. Donc, selon une étude du Shift Project, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre, soit 92 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit autant que le secteur de l'habitat en France. On comprend mieux la démarche des écosexuels et si on devait résumer en quelques mots, ce serait « faites l'amour à la terre et pas la guerre
». Merci beaucoup Elsa Lévy pour cette découverte de cette tendance. Donc franchement, moi j'avais jamais entendu parler. Je dis pas que vous m'avez converti, non, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. À présent, je me tourne vers vous, Séverine Pierron, celle qui est toujours à l'affût pour nous des tendances chez les 15-20 ans, on va dire. Alors celle-là non plus, j'en avais jamais entendu parler. Je dois être trop vieille. Alors le shifting Kazako.
Alors le shifting, c'est une nouvelle tendance qui a quelques années, peut-être un an ou deux, qui est apparue sur TikTok, donc ce réseau social que vous connaissez, des 15-25, c'est un réseau social sur lequel on poste surtout des vidéos. Mmh. Alors le shifting, de quoi il s'agit ? En fait, selon ces jeunes adeptes, le shifting, ce serait une sorte de voyage mental qui vous fait quitter votre réalité pour en atteindre une autre, et ce uniquement grâce à la puissance de votre cerveau.
Très bizarre.
Voilà. Le shifting, c'est en fait, si vous voulez, c'est une sorte de rêve lucide, c'est-à-dire que vous faites un voyage vers une autre dimension en restant conscient, en fait. Mmh. En fait, il faut juste, c'est juste un autre stade de conscience. En anglais, to shift, ça signifie se déplacer, voyager. Alors, bon, ça a l'air un petit peu fumeux comme ça.
Oui, hein, j'avoue, pas un petit peu.
Mais, figurez-vous que sur TikTok, le phénomène des ados shifters, ça prend une ampleur dingue.
Ah bon ?
En fait, si vous voulez, c'est à peu près depuis la période du confinement que ce phénomène s'est envolé. C'est vrai que rester toute la journée à la maison bloqué avec ses vieux parents, ça donne plutôt envie de s'échapper mentalement. Et alors, le mot-clé, si vous voulez, shifting realities sur TikTok, ça a dépassé les 3 milliards de vidéos vues.
Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos TikTok de shifting ?
Alors, elle veut shifter.
Elle a envie, je crois.
Là, je shift devant vous. Je suis à un autre niveau de conscience.
Vous partez où, là ? Vous êtes loin ?
Elle est très, très loin. Ouais. Elle est dans un univers mental qu'elle a choisi. Alors, dans ces courtes vidéos, si vous voulez, les jeunes se donnent des conseils pour atteindre cet état second un peu bizarre. Ils détaillent leurs expériences de shift. Il y a tout un jargon spécifique, comme par exemple la DR. C'est en anglais « desired reality », la réalité désirée, celle qu'on a envie d'atteindre, si vous voulez. Mm-hmm. Et la CR, c'est la « current reality », c'est la réalité actuelle, celle dans laquelle vous êtes en ce moment, celle d'où vous voulez partir, en fait.
Mais concrètement, comment ça se passe ? Je ne comprends pas bien, en fait.
Alors, c'est un peu comme un trip au LSD, mais sans le LSD, en fait.
Ah, c'est mieux pour la santé.
Ils font semblant, non ?
Enfin, non, plus sérieusement, en fait, c'est presque un phénomène d'auto-hypnose.
Ah,
en fait, il
voilà.
y a plusieurs méthodes. Les ados se refilent entre les méthodes. Par exemple, vous pouvez vous allonger. Alors, c'est un peu, si vous voulez, c'est assez proche à la méditation. Vous vous allongez sur votre lit. Mm-hmm. Vous pensez hyper fort à un scénario que vous voudriez voir se réaliser. C'est un peu comme quand vous étiez petit et que vous endormiez, vous rêviez un gros gâteau pour faire des beaux rêves. Ou... C'est choisir un peu un scénario, si vous voulez. C'est
moi,
très
scénarisé. Moi, je vais partir, admettons, aux Seychelles. J'imagine ça, c'est ça ?
Voilà. Et alors, vous pensez très fort à cet objectif. Et après, il y a des techniques. Alors, je ne vous dis pas que c'est scientifique. Hein. Alors, par exemple, il y a compter à l'envers ou réciter l'alphabet. Et en fait, il faut rentrer dans une espèce de presque de transe, si vous voulez. Mm-hmm. Et ceux qui ont réussi à quitter leur réalité pour partir dans le monde d'Harry Potter, par exemple. Il raconte des sortes de flashs blancs, des picotements dans les membres. Alors, ça dure que quelques minutes, apparemment, hein, mais ça équivaut à une journée entière dans notre réalité. Hein. Mmh. Une minute de shift, c'est une journée entière. Bon. Alors, évidemment,
c'est pas un peu des mythos quand même.
Alors,
ces
je crois que c'est un petit peu mytho, mais c'est-à-dire que c'est...
Moi, là, je peux vous faire croire que je passe en transe. Là, je shift, attention, je suis en train de shifter les filles. Là.
Alors, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais ils sont vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire que, c'est assez troublant. Et alors, souvent, bon, donc les jeunes, c'est plutôt d'ailleurs des filles, hein. Mm-hmm. Si vous voulez, elles choisissent surtout de partir dans des univers de fantasy, enfin, fantasy.
Elles deviennent quoi, des héroïnes
Twilight, Harry Potter, des univers assez proches de tout ça. Et donc, il faut vraiment choisir ce qu'elles appellent un script, en fait, un scénario. Mm-hmm. Si vous voulez, vous racontez votre histoire dans votre tête, même vous pouvez l'écrire, ça peut vous aider, apparemment, hein. Et vous glissez votre scénario sous votre oreiller, et puis ça va vous aider à shifter, quoi.
Oui, ça fait un peu peur, non ? Il n'y a pas des risques, quand même, de rentrer en transe comme ça.
Alors honnêtement, comme disait Mélanie, ça c'est quand même un petit peu pipeau, je pense. Mm-hmm. Mais si vous apprenez que votre ado est shifter, il n'y a pas grand chose à craindre.
Bah, surtout, ça veut dire qu'il ne prend pas de drogue en tout cas.
Alors, c'est assez inoffensif. En plus, franchement, je pense que ça relève plutôt de la pensée magique qu'autre chose.
Si ça leur fait du bien, tant mieux. Ouais.
Voilà. Et puis en fait, dans les vidéos, il y a beaucoup qui racontent qu'ils tentent depuis des mois et des mois et qu'ils n'y arrivent pas quand même. Hein, donc c'est assez difficile.
Ils sont moins mythos que les autres, ceux-là. En fait,
voilà.
Hein,
c'est un peu... Mais moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça crée en fait du lien entre les ados quand même, parce que dans cette communauté virtuelle qui est énorme, hein, autour du shift, ils s'échangent des vidéos, ils se racontent leurs expériences. Alors bon, c'est une manière en fait de dialoguer finalement.
Mais nous, on faisait du spiritisme quand on était petits.
C'est ça. Ouais, voilà. Bon, c'est toujours la même histoire, sauf que là, ça se raconte via les réseaux sociaux. Et si vous voulez, ça
crée du lien, ma foi.
Voilà, ça se rapproche aussi d'une autre tendance un peu ésotérique, hein, qu'on connaît sur les réseaux sociaux, comme par exemple la néo-sorcière. Vous voyez, ces histoires de... Mais si, la sorcière sur les réseaux sociaux, quand même. Bah, ça fera l'objet d'une prochaine chronique.
C'est ça, vous ?
Pas du tout.
Ah
bon, en tout cas, en conclusion, Zuckerberg, avec son histoire de métaverse, d'univers parallèle, bon, finalement, je crois que les ados, ils n'ont pas besoin de casque de réalité virtuelle pour passer dans une autre dimension. Ils ont juste besoin d'un petit peu de... Voilà. Un petit peu un lit, les réseaux sociaux, TikTok, et c'est bon, ils sont partis.
Bah c'est tellement rigolo, ça. Je vais voir si mon fils, il shift. Comment le savoir ? Je vais l'épier un petit peu. Merci beaucoup, Séverine, pour toutes ces explications. C'est bien. Grâce à vous, on comprend mieux, ou pas, d'ailleurs, nous ados. En tout cas, on sait au moins pourquoi ils sont scotchés devant des vidéos vraiment bizarres parfois. On va pouvoir frimer en leur disant t'es sur une vidéo de shifting ?
Ouais, tu veux qu'on shift ensemble ?
Ouais, grave. Mais grâce à vous, on sait maintenant comment bien l'utiliser. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Voilà, cette émission touche à sa fin. On sera de retour, bien sûr, lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme ?
Alors, lundi, dans Bienfait pour vous, on va se mettre au vert. On va voir comment les fleurs, les arbres ou même les mauvaises herbes peuvent nous faire du bien dans l'assiette, mais aussi dans la maison.
Et bien, d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.